Vous écoutez Radio B pour un magazine spécial en lien avec la deuxième journée des aidants qui se déroulera à la Plaine Tonique à Mont-Revel le 3 juillet prochain sur le thème « J'aide un proche et moi qui m'aide ». De quoi s'agit-il ? Certaines actions de la vie courante nous paraissent si naturelles que nous les faisons par habitude sans nous poser de questions quant aux capacités que nous devons mettre en œuvre pour les accomplir. Par exemple, dès que mon réveil sonne, il me faut éteindre le réveil, me lever, aller aux toilettes, me laver, m'habiller, préparer le petit déjeuner, prendre mon petit déjeuner, prendre éventuellement mes médicaments, faire ma vaisselle, et n'oublions pas ma biscotte beurrée qu'il a fallu ramasser parce qu'elle était tombée du mauvais côté. Supposons maintenant que je ne sois pas en mesure de réaliser toute partie de ces actions. Qui va le faire pour moi ? Soit un professionnel, soit un proche. Si c'est un proche, alors c'est un aidant, comme il en existe un peu plus de 10 millions en France. Suivant le cas, son aide sera pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire des années. Mais l'aidant, lui, n'a pas voulu cette situation, il l'a subie. Avec des conséquences importantes sur sa vie quotidienne, notamment si l'aide qu'il apporte s'inscrit dans la durée. L'aidant se sent souvent bien seul. Même s'il peut être assisté dans sa tâche, il a besoin de moments pour souffler, appelé période de répit. Conséquences sociales, assistance de professionnels, rapport avec le milieu médical et répit sont autant de sujets qui sont abordés sous la forme de témoignages que je vous invite à écouter. Peut-être allez-vous découvrir que vous êtes un aidant sans le savoir, sous une forme ou sous une autre.
Radio B, les bonnes ondes.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons connaissance de l'événement du 3 juillet. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous faites partie de l'équipe d'organisation de l'événement du 3 juillet consacré aux aidants. En quoi il consiste ?
Oui, en effet. Donc, je suis bien membre au niveau du Copil des aidants. Alors, en quoi il consiste ? Donc, il a été créé en 2019, suite à un constat, puisque concrètement, au niveau du secteur associatif et du secteur associatif, et notamment dans le milieu du handicap et de la personne âgée, nous avons pu faire un constat sans appel, donc celui des aidants qui sont laissés pour compte et qui sont un peu oubliés quelque part. D'où en fait la création de ce Copil et la création de la première édition du Forum des aidants qui a eu lieu donc en 2019 et donc que nous réitérons cette année pour le 3 juillet prochain.
Il y aura plusieurs choses d'installer lors de cet événement, vous me les confirmez, j'ai compris qu'il y avait une table ronde, des témoignages, un village associatif, les offres de répit, des ateliers thématiques, c'est bien ça ?
Oui, en effet, c'est bien ça. Donc on organise une table ronde donc le matin pour pouvoir lancer la journée avec donc des institutionnels présents pour pouvoir justement introduire le sujet du statut d'aidant, donc qui, quoi, comment. Avec notamment la présence de l'ARS, de la NDPH, de psychologues, pour pouvoir justement engager cette conversation et ce sujet. Et puis par la suite, il y aura également donc, en parallèle un village associatif donc, animé par les associations présentes ce jour-là. Et donc des ateliers thématiques toute l'après-midi, donc de 14h à 16h.
Merci Sarah. Vous l'avez compris, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce sera un moment riche en informations et échanges pour des personnes qui consacrent leur quotidien à aider leurs proches. J'aurais préféré que l'ensemble des invités soient ensemble dans le studio. Pour respecter les contraintes sanitaires, il n'y aura jamais plus de deux personnes dans ce studio. Pour les entendre toutes et tous, nous ferons des rotations suivant les thèmes abordés. Je les interrogerai à partir de la régie. Nous pouvons malgré tout tous nous voir à travers la vitre. Nous finirons bien un jour par retrouver des conditions normales d'interview.
Radio B, les bonnes ondes.
Notre vie sociale, notamment nos liens avec notre famille et nos amis, prend une place importante tout au long de notre existence. Écoutons Sophie, devenue aidante pour son fils, qui nous a apporté son témoignage par téléphone quant aux changements intervenus dans ses différentes relations avec ses proches. Nous la retrouverons tout au long de l'émission.
Alors les conséquences sur ma vie sociale par rapport à la famille. Il y a eu très peu d'écart par rapport à la famille, parce que la famille a été très soudée autour des difficultés de notre fils. Donc on a continué de les voir régulièrement. Ça n'a absolument pas entravé notre vie familiale. Par contre, en intrafamilial, ça a été extrêmement compliqué, parce que notre fils avait des troubles psychiques. Au début, le diagnostic posé était un diagnostic de schizophrénie, avec des comportements agressifs, donc ça a été très compliqué au niveau intrafamilial et en particulier au niveau de notre autre fils qui a beaucoup souffert du fait d'avoir un frère compliqué à gérer à la maison et des parents complètement accaparés par la gestion de ce fils qu'on ne comprenait pas à l'époque. Par rapport aux amis, on a eu beaucoup de chance parce que nos amis ne nous ont jamais laissé tomber. Mais comme conséquence, à long terme, ça aurait pu être difficile parce que nous, en tant qu'aidants, on a été très concentrés sur le bien-être de notre fils. Et pour ma part, je ne pensais que à ça, je ne vivais que pour ça. Et donc, la vie sociale, dans le temps, s'est progressivement dégradée. Mais heureusement, le rétablissement de notre fils a pu intervenir suffisamment tôt pour... on a conservé une cellule amicale soudée et bienveillante. Mais dans le temps, on ne sait pas comment ça aurait pu se dérouler. Donc ça dépend vraiment du niveau d'autonomie de l'aider et du besoin de surveillance qu'il y a, et besoin d'intervention de façon générale. Tout se compte en temps et en énergie physique et psychique à mettre au service de la personne aidée.
Radio B, les bonnes ondes.
Nous accueillons en studio deux aidants qui vont nous apporter à leur tour leur témoignage. Bonjour Christian.
Bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Vous êtes chacun aidant d'un proche. Juste en quelques mots, sans entrer dans des informations très personnelles, à la suite de quel problème êtes-vous devenu aidant, Christian ?
Eh bien, je suis devenu aidant début 2019, donc ça fait 2 ans. Mon épouse a été diagnostiquée début 2016 Alzheimer. Et les problèmes se sont accentués et ont nécessité début 2019 donc l'obligation de recourir à des soins à domicile, notamment le matin.
Jean-Jacques ?
Moi je suis devenu aidant, on va dire, au début des années 80, à l'âge très jeune, à l'âge de 20 ans, parce que j'ai rencontré mon épouse qui était atteinte d'une maladie, d'une sclérose en plaques.
Vous avez quel âge, Christian ? Vous avez quel âge, pardon, Jean-Jacques ?
J'ai 60 ans.
60 ans.
Et j'ai rencontré mon épouse donc à l'âge de 20 ans, elle avait quelques 3-4 années de plus, et nous avons entamé, on va dire, une vie normale, et on devient aidant au fil de l'eau, puisque la maladie évoluant, la sclérose en plaques étant, suivant les cas, évolution lente mais très très progressive, au fil de l'eau on devient aidant, et aujourd'hui on est aidant à 150%.
Vous avez tous les deux entendu le témoignage de Sophie sur sa vie sociale par rapport à sa famille et à ses amis. Qu'est-ce que ça a été pour vous, Christian ?
Eh bien, notre groupe d'amis proches s'est plutôt renforcé. Je sens un soutien quand même. Et nos rencontres se sont maintenues, malgré la crise de Covid, évidemment. Par contre, la vie sociale par rapport à, on va dire, le club Troisième Âge de Saint-Denis, donc
les amis.
Ça sera les amis proches, ça s'est plutôt renforcé.
Ça s'est renforcé aussi.
Oui, plutôt renforcé.
Vous êtes plutôt dans le sens du témoignage de Sophie, donc.
Absolument.
Et vous, Jean-Jacques ?
Oui, je partage le témoignage de Sophie, surtout quand elle a dit que lorsque l'autonomie disparaît, c'est là où ça devient de plus en plus compliqué, puisque pour les amis et la proche famille, venir nous voir, et parfois on a le sentiment qu'ils faisaient l'effort de venir nous voir, et le fait d'avoir peut-être une réaction qui peut être agressive de la personne qui est malade, ça a entraîné quelques éloignements du groupe d'amis. Aujourd'hui, la moitié d'une main suffit.
La moitié d'une main suffit.
Oui, tout à fait.
Donc, est-ce que vous pensez plutôt que les personnes, les proches, les amis, notamment dans votre cas, ont du mal à comprendre la situation ? Ce que vous vivez, vous, et ce que vit la personne aidée ?
Non, je pense qu'ils ont plus de facilité de comprendre ce qu'on vit, nous, en tant qu'aidants. Puisqu'ils se mettent un petit peu en situation parfois, quand je ne suis pas là, ils peuvent venir une heure ou deux et ils se rendent compte de la difficulté. Par contre, comprendre l'évolution d'une maladie, c'est plus compliqué. Surtout qu'ils ont aussi leurs soucis personnels, leurs enfants qui grandissent, leurs parents à s'occuper, toutes ces choses.
Vous avez des enfants tous les deux ?
Oui, garçon et fille.
Comment ils ont réagi à cette situation, Christian ?
Eh bien, lorsque le diagnostic a été posé, donc début 2016, ça a répondu à des tas d'interrogations que nous avons sur le comportement, sur la façon de se comporter avec mon épouse. Et ils ont pris, je dirais, à bras le corps la maladie, avec tous les soucis que ça peut leur apporter, oui.
Et dans votre cas, Jean-Jacques ?
Nous, nous n'avons pas d'enfants. Mon épouse a contracté sa maladie, elle avait 19 ans. Mmh. On a fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Au départ, c'est une décision difficile à prendre. Et puis avec la vie qui passe, on vit différemment.
Le témoignage de Sophie, vous avez des commentaires à faire dessus ? Christian ?
Non, je m'y retrouve assez
vous
bien.
Vous y retrouvez oui. complètement dans complètement. La situation avec sa famille. Elle nous donnera d'autres témoignages tout à l'heure un peu plus prononcés. Et vous, Jean-Jacques ?
Oui, témoignage très clair. Puis on sent une personne qui... Voilà, c'est tout les caractéristiques de l'aidant qui a beaucoup de volonté.
Est-ce que ce sentiment de vie sociale modifiée avec la famille et avec les amis, il est partagé par d'autres aidants que vous rencontrez ?
Oui, pour ma part, oui. Oui, oui.
Christian ? Le témoignage de Sophie ou ce que vous avez dit à l'instant sur vos propres situations, est-ce que c'est partagé par d'autres aidants ?
Pas spécialement d'autres aidants, non, je n'en connais
non,
pas.
Vous n'en connaissez, vous n'en rencontrez pas ?
Je n'en ai pas dans mon entourage proche.
Radio B, les bonnes ondes.
Entrer dans le statut d'aidant, si je peux m'exprimer ainsi, entraîne donc des conséquences quant à la vie sociale, mais pas seulement. La vie professionnelle en subit aussi les effets. Sophie témoigne de son expérience sur ce sujet.
La vie professionnelle, donc au début, j'ai cumulé deux travail à temps plein. Donc ma vie professionnelle a été beaucoup impactée parce que j'étais fatiguée physiquement, psychiquement. Et toute mon énergie mentale était concentrée autour des questions sur l'avenir de mon fils et comment ça allait pouvoir se passer. Et donc tout ça, ça a conduit au fait que j'ai dû arrêter de travailler. Donc c'est pas un choix, c'est plutôt un choix contraint. C'était soit m'occuper de mon fils, soit l'abandonner en psychiatrie. Donc ça, c'était pas un choix quelque part, c'était vraiment une obligation. Et donc j'ai dû, et avec regret, arrêter ma vie professionnelle. Donc quand mon fils a été rétabli, j'avais arrêté de travailler depuis 5 ans et reprendre une vie active. Donc après 50 ans, c'est très compliqué, surtout qu'en France, le fait d'être aidant n'est pas valorisé. Et mes compétences professionnelles, évidemment, j'ai pas pu les maintenir.
Radio B. Les bonnes ondes.
J'accueille maintenant en studio Madame Angélique Grobon pour évoquer avec elle le travail de l'association Bulle d'air. Nous poursuivons aussi l'échange avec Jean-Jacques. Bonjour Madame Grobon.
Bonjour.
Quelle est votre fonction par rapport aux aidants ?
Alors, je suis responsable de secteur sur le département de l'Ain, donc j'accompagne les aidants pour mettre en place des interventions pour leur permettre des temps de répit. Donc une intervenante vient à domicile pour prendre soin du proche fragilisé pour que l'aidant puisse avoir du temps pour lui, du temps d'activité, des rendez-vous ou parfois avoir une activité professionnelle.
Nous reviendrons tout à l'heure plus longuement sur la notion de répit. Nous venons d'entendre le témoignage de Sophie quant aux conséquences de sa fonction d'aidant sur sa vie professionnelle. Et vous, dans vos relations avec les aidants, rencontrez-vous des cas similaires ?
Alors, moi, là, sur le département de l'Ain, j'ai une famille où l'époux a un travail au quotidien et à temps plein, d'où on a des relayeuses qui interviennent pour lui permettre d'aller travailler. Sinon, la plupart du temps, les personnes sont à la retraite ou n'ont plus d'activité professionnelle.
Et vous, Jean-Jacques, votre expérience dans ce domaine ?
Mon expérience, ayant rencontré le handicap de mon épouse très tôt, je me suis lancé dans la vie professionnelle et j'ai construit mon parcours. Ça a été compliqué aussi, mais peut-être le fait, ça fut également une sorte de... Je me suis réfugié aussi dans le travail. J'ai fini mes études et puis j'ai commencé à travailler, j'ai repris mes études pour arriver à avoir les diplômes que je voulais et pour pouvoir entreprendre. Donc aujourd'hui, alors le témoignage de Sophie est très intéressant parce qu'elle a arrêté son travail. Moi, je pense que j'ai fait encore beaucoup plus. C'était également une preuve qu'on pouvait faire beaucoup de choses dans la vie. Ce qui fait que je le continue aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, j'ai 60 ans. Les journées commencent de bonne heure parce que la journée des dents, pour moi, elle commence à 4h30. Elle finit à 23h. Et entre-temps, il y a le temps pour la vie professionnelle.
Radio B, les bonnes ondes.
Madame Grosbon, vous rencontrez souvent des cas de personnes qui doivent mélanger vie professionnelle et vie d'aidant. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ils parlent souvent d'avoir deux emplois, finalement, leur vie professionnelle avec leur travail et une deuxième vie professionnelle à s'occuper aussi de leurs proches, qui est un travail aussi finalement à temps plein.
Jean-Jacques, vous considérez aussi que être aidant, c'est une profession ?
Ah oui, totalement, oui. Totalement. Plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que c'est une profession. Je milite un petit peu, moi, de mon côté aussi, pour qu'il y ait cette reconnaissance du profil d'aidant, du statut d'aidant. Il y a eu déjà des propositions de loi qui ont été faites en ce sens. Ça avance tout doucement, mais c'est une vraie profession.
Vous partagez, Madame Grosbon ?
Oui.
Votre journée au quotidien, Jean-Jacques ?
4h30, le réveil sonne. Parfois, c'est un petit peu compliqué de venir nous chercher dans le lit, je vous l'avoue. Et puis, je prends déjà un petit temps pour moi-même. Et puis après, je m'occupe de mon épouse. Je fais tout ce que normalement, on va dire, le personnel infirmier qui vient à domicile devrait faire. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est le petit déjeuner du matin, la toilette. Et une fois que tout ça est terminé, vers 6h30, je remets mon épouse dans le lit. Et puis, elle est habillée, à moitié habillée. Et moi, je vais attaquer mon deuxième travail, si on peut dire. Et après, le relais est pris par les aides à domicile et les infirmiers à domicile le matin et l'après-midi. Et je reprends, quand je rentre le soir vers 19h, je reprends cette vie d'aidant. Je fais le repas, même si c'est vite fait, à deux, hein, le soir à 19h, on est bien d'accord. Et puis, voilà, tout ce qui est des choses qui sont à faire le soir. Et comme il y a des soins infirmiers qui sont à faire et que je fais moi-même aussi, ben, j'attends 23 heures pour les derniers soins infirmiers. Et après, extinction des feux.
Madame Grosbon, dans ces situations, qu'est-ce qui peut être proposé ?
Après, il existe donc différentes associations pour relayer les dents, dont Bulder. Mais après, il y a d'autres institutions. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué pour les dents, c'est de savoir ce qui existe. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais il faut qu'il puisse trouver ce qui lui convient. Et c'est là où c'est le parcours, je pense aussi, qui est difficile pour un aidant.
Il doit faire quoi ? Vous conseilleriez quoi ?
Pour trouver les
bonnes solutions. Pour démarrer, oui, pour tirer pour ne serait-ce qu'entrer dans le processus.
Déjà, il faut que l'aidant puisse reconnaître qu'il est aidant. Parce qu'au quotidien, la plupart des aidants, c'est normal d'accompagner son proche. Donc déjà, il faut qu'il puisse se reconnaître en tant qu'aidant. Et ça, c'est, je pense, une étape très, très difficile pour l'aidant. Et après, je pense que pour l'instant, il y a des portes ouvertes comme le CLIC ou d'autres associations qui sont des portes ouvertes qui peuvent guider. Mais c'est vrai que c'est, je pense en tout cas, un parcours difficile pour l'aidant de savoir à qui il peut s'adresser aujourd'hui.
Vous partagez cette opinion ou cette impression, Jean-Jacques, qu'il y a des personnes qui aident et qui ne savent même pas qu'elles peuvent avoir ce statut d'aidant ?
Tout à fait. Oui, je partage cette opinion. Dans mon cas particulier, la première fois que j'ai vu des professionnels arriver à la maison, c'était un des jours les plus difficiles de ma vie. De voir une assistante sociale, de voir des éducateurs et autres qui viennent faire un diagnostic de votre situation à domicile, et qui seront, alors que vous avez l'impression d'avoir tout donné depuis 25 ans, parce que ça fait à peu près 15 ans qu'on a rencontré ces professionnels. Mais je pense qu'on les a peut-être rencontrés avec du retard.
Madame Grosbon, il est difficile de faire comprendre à ces personnes qui aident et qui sont des aidants sans le savoir, de leur faire comprendre qu'ils ont besoin d'être assistés.
Alors, on les accompagne au mieux, mais c'est vraiment, je pense, à eux voilà, de se rendre compte de la situation. On ne peut pas penser à leur place et les pousser à se dire qu'on est aidant, en tout cas. Mais on peut les accompagner, mais c'est vraiment personnel et individuel, en tout cas.
Il y a certainement des personnes qui nous écoutent et qui sont en train de se poser des questions quant à savoir si elles sont aidantes ou pas. Comment elles pourraient se reconnaître comme aidantes ?
Un aidant, c'est du moment qu'on commence à accompagner un proche dans certains actes de la vie quotidienne, que ça soit régulier ou ponctuel, on devient aidant du moment où on va pallier à certains actes que la personne ne peut plus accomplir en tout cas.
Vous partagez, Jean-Jacques ?
Oui, on s'en rend compte assez facilement qu'on pallie au manque de la personne aidée. Et on ne se doute pas qu'on est aidant, mais c'est à partir de ce moment-là où on devrait prendre conscience et de frapper aux bonnes portes.
Vous auriez aimé être accompagné plus tôt ?
J'aurais aimé, oui.
Oui, vous êtes accompagné depuis combien de temps ?
Depuis une dizaine d'années.
Une dizaine d'années.
Oui, ça veut dire qu'on a vécu, on a vécu presque 30 ans sans être accompagné.
30 ans sans être accompagné. Oui. Le fait d'être accompagné, ça vous a apporté quoi ?
Bah, ça m'a surtout... Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient ce métier, qu'il y avait des gens qui avaient connaissance de nos soucis. Et ça m'a permis de prendre conscience aussi qu'à un moment, on n'est pas Superman quoi, ou Superwoman, on ne peut pas répondre à tout. Et je pense que je continue à travailler aujourd'hui, j'aurais été beaucoup plus épuisé, je pense, à mon âge aujourd'hui, si je n'avais pas rencontré ces personnes.
Madame Grobon, ces personnes, on les appelle des professionnels ?
Les personnes
qui interviennent à domicile, on peut les appeler des professionnels, qui soient aides à domicile, qui soient infirmiers, on les appelle d'une manière générale des professionnels. On va approfondir un petit peu cette question de professionnels dans le cadre de la relation aidant-professionnel.
Radio B, les bonnes ondes.
L'aidant ne peut pas assurer, comme on vient de l'entendre, toutes les tâches que réclament les soins indispensables à la personne aidée, par exemple pour des raisons de compétences techniques, tout simplement. Des professionnels se déplacent alors au domicile. Comment cela s'est-il passé pour Sophie ?
Nous avons eu quelques aidants professionnels, enfin quelques professionnels qui sont venus à la maison, et nous les avons surtout choisis, donc en libéral. Les aidants professionnels que nous avons eus ont été d'un très grand soutien. Je pense en particulier à une monitrice de sport adapté qui a fait travailler le corps de mon fils, mais également qui a beaucoup travaillé les fonctions exécutives. Donc tout ce qui est pour augmenter son niveau d'autonomie et pour qu'il arrive à planifier, à se mettre dans des tâches, à les terminer. Nous avons eu une autre expérience avec une aidante à la maison. C'était une éducatrice spécialisée, tout à fait charmante et bien formée, mais là, ça a été un échec en termes de prise en charge. Et l'avantage du libéral, c'est qu'on peut choisir. On nous avait proposé un service de SAVS, donc service d'aide à la vie sociale, donc à la maison et pour le coup, que nous ne payons pas parce qu'on avait une reconnaissance MDPH avec cette orientation SAVS, mais j'ai refusé parce que suite à prise de contact avec le directeur du service, j'ai compris qu'il n'y avait personne de spécialisé et nous avions déjà beaucoup souffert avec des professionnels qui n'étaient pas compétents dans le profil de mon fils, à savoir donc il n'était pas schizophrène, il y avait eu une erreur de diagnostic, mais il était autiste, Asperger, en dépression sévère, et je préférais assurer tout ce qui était quotidien de mon fils plutôt que confier cette tâche à des personnes qui auraient fait plus de mal que de bien, mais c'était un choix.
Radio B, les bonnes ondes.
Madame Grobon, quelles relations vous entretenez avec les professionnels ? Comment vous les choisissez ?
Alors moi, du coup, je vais à domicile pour évaluer le besoin. Donc je rencontre l'aidant et la personne aidée. Donc ça me permet de savoir le profil que je vais devoir sélectionner. Je dis bien sélectionner puisqu'on est en mode mandataire, donc c'est l'aidant qui est l'employeur, enfin la personne aidée qui est employeur. Donc je sélectionne et je rejoins le témoignage en disant qu'il faut aussi que justement la personne aidée et aidante s'accorde bien, enfin qu'il y ait un feeling avec la personne qui va venir à domicile pour que ça se passe bien, pour que les interventions se passent bien.
Vous considérez que c'est indispensable
C'est indispensable.
La qualité de la relation permettra...
C'est certain et je trouve que c'est positif de pouvoir dire que ça ne correspond pas parfois aux attentes, que l'intervenant ne correspond pas aux attentes de la personne aidante. C'est important, ce qui donne la confiance à l'intervenante pour prendre du répit et laisser leurs proches entre les mains d'un professionnel.
Parfois, le courant ne peut pas passer, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de notion de compétence, le courant ne passe pas. Comment vous faites dans ce cas-là ?
Je cherche une autre intervenante.
Est-ce que c'est bien pris par le professionnel qui a été refusé, si je peux l'exprimer ainsi?
Moi, en amont, c'est travailler avec l'intervenante où j'explique qu'il y aura une première rencontre et que parfois, ça peut arriver que le feeling ne passe pas, que c'est peut-être pas spécialement de ce fait à elle, mais ça peut arriver, c'est humain, tout simplement.
Je comprends que dans votre travail de tous les jours, et notamment pour la première prise de contact, prévenir le professionnel, c'est important.
Oui.
Au quotidien.
Oui.
Ça peut casser au bout de plusieurs semaines de travail, par exemple?
Alors moi, je n'ai pas eu le cas. C'est rare. Une fois que c'est mis en place, que la confiance est instaurée, en principe, les interventions se passent bien. Et nous, en tout cas, à Bulder, il y a vraiment une relation triangulaire entre aidant, aidé, relayeuse, parce qu'on appelle des relayeuses, nous les intervenantes, et moi qui est responsable de secteur.
Sophie, dans son témoignage, a fait la différence entre le milieu libéral et le milieu institutionnel. On peut clarifier ce point particulier? Il y a le milieu, qu'est-ce que c'est que le milieu institutionnel? Vous travaillez pour le milieu institutionnel, vous?
Pour les institutions, établissements, oui. Non, on est à domicile, nous.
Donc, dans votre cas, à vous, c'est du domaine libéral?
Oui.
Jean-Jacques, comment ça se passe avec les professionnels qui viennent avec le domicile? J'ai compris qu'il y avait un infirmier.
Il y a un infirmier le matin, il y a un infirmier l'après-midi, il y a une aide à domicile le matin. L'après-midi, on n'a personne. Peut-être que ça va évoluer aujourd'hui. C'est vrai que ce relais est très très important avec l'aide à domicile. Mon épouse, c'est également une association qui la suit. On a un service mandataire. On tient beaucoup à ce service mandataire puisque la personne est employeur, ce qui permet d'avoir toujours les mêmes personnes. Parce que la relation entre l'aidé et la personne, l'auxiliaire de vie, est très très importante. Et si vous changez toutes les semaines, là ça devient un carnage, un vrai carnage. Et si vous voulez continuer à avoir votre activité professionnelle, si vous voulez sortir en ayant confiance, alors vous avez les 06 de tout le monde, hein, les portables bien sûr sont branchés, les SMS fonctionnent dès le matin s'il y a une consigne qui est donnée ou un médicament complémentaire à prendre ou faire attention à telle ou telle chose. Mais là, moi j'attache une grande importance, on a deux auxiliaires de vie, j'attache une grande importance à ce que ce soit toujours les mêmes. Lorsqu'il y a des absences, on a la chance de travailler avec une association et une responsable de secteur qui n'est pas Bulder mais qui fait son travail et avec qui, pareil, on a de très très bonnes relations. Et il est important dans ces structures qu'on ait des professionnels. Comme madame, qui puisse comprendre, c'est nécessaire pour la personne aidée, mais pour l'aidant. Parce qu'autrement, en extérieur, on est toujours en train de guetter qu'est-ce qui va se passer.
Madame Grosbon, comment elles sont fixées les règles et les limites d'intervention du professionnel au domicile d'une personne aidée et de son conjoint, le plus souvent aidant? Comment on définit les règles de travail? Comment on définit ce qu'il va falloir faire, ne pas faire, etc.?
C'est vous qui la mission des intervenantes?
Voilà, c'est mieux dit, mais c'est ça.
C'est lorsque je vais à domicile, je vais vraiment prendre un temps vraiment assez long pour discuter. Et je vais discuter avec l'aidant aussi. Quelle mission vous attendez de l'intervenante? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire? Et on va prendre point par point. Le quotidien de la personne, les nécessités, mais aussi le côté activité ludique pour apporter des bons moments aussi à la personne aidée pendant que l'aidant s'absente. Tout est notifié à ce moment-là, en tout cas.
Je rebondis sur ce que vient de dire Madame Grosbon. Il y a quand même des moments ludiques, des moments moins difficiles que d'autres, Jean-Jacques.
Oui. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y en a. On essaye de partir un petit peu aussi en vacances. Alors, c'est vrai qu'on a un véhicule aménagé, on prend la moitié de la maison avec nous, mais voilà, on arrive quand même à aller dans des endroits relativement sympathiques. On essaye de bouger un petit peu. C'est de plus en plus difficile. Chaque cas est différent, bien évidemment. Mais le plus difficile, si vous voulez, si vous partez 4-5 jours, c'est que vous devez tout faire, parce que si je pars 4-5 jours et si je prends contact avec des infirmiers et autres, non, ce ne sont plus des vacances. Donc je préfère dire je vais tout assumer pendant 4-5 jours, voire plus, hein, parce que ça nous est arrivé même sur une durée de 3 à 4 semaines. Avec le temps qui passe, je le ferai peut-être de moins en moins parce que la situation est de plus en plus difficile. Mais j'appelle parfois ça un répit à deux.
Est-ce que c'est vraiment des vacances?
Je commence à me poser la question.
Oui, vous vous posez sérieusement
la question. Oui, je me pose sérieusement la question. Normalement, ça doit se passer cet été, fin août. Si la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, à la maison, ça va être compliqué pendant 3 semaines.
Ouais. Ouais, de partir de vacances complètes sur 3 semaines.
De partir de vacances complètes 3 semaines, sans faire appel éventuellement à des tierces personnes sur place.
Est-ce qu'il est possible, Madame Grosbon, qu'un professionnel accompagne un couple aidé aidant en vacances?
Alors nous, en tout cas, on ne le fait pas. Enfin, en tout cas, on intervient vraiment à domicile. Donc peut-être que d'autres institutions le font, mais j'en ai pas connaissance en tout cas.
Radio B, les bonnes ondes.
Si je deviens aidant de fait, c'est parce qu'un proche a connu un accident ou une maladie qui a entraîné l'impossibilité d'accomplir certains gestes de la vie quotidienne ou de pouvoir gérer ses affaires. Bien sûr, le milieu médical devient alors un contact régulier. Sophie nous parle de son expérience très particulière quant au problème qu'elle a rencontré.
Alors, les relations avec le milieu médical ont été extrêmement compliquées. Donc, tout allait bien tant qu'on ne posait pas de questions aux médecins, tant qu'on ne remettait pas en question leur diagnostic et leur pratique. Dès que j'ai commencé à poser des questions, mais ne serait-ce que sur le traitement ou alors sur le diagnostic de schizophrénie, ça a été l'enfer. À tel point que la psychiatre ne voulait plus me parler, c'est ce qu'elle a dit à mon mari. Et ça a même occasionné des tensions dans notre couple. Il faut savoir que la psychiatrie institutionnelle, c'est une psychiatrie de contention physique. Donc mon fils de 16 ans a été attaché à son lit, on lui a injecté des médicaments, et contention médicamenteuse. Donc l'un ou l'autre, on choisit. Enfin, on choisit pas en fait, ils choisissent. Donc, vu la maltraitance que mon fils a subi, les relations ont été extrêmement tendues, d'autant plus que le risque qu'on avait, c'était que si jamais on n'était pas d'accord avec les professionnels de santé, il y avait en plus un risque de signalement au procureur de la République, avec le risque de perdre la garde de notre fils qui était mineur. Donc ça a été extrêmement compliqué, donc il a fallu vraiment se battre pour pouvoir sortir notre fils de là, et choisir donc des praticiens en libéral, mais trouver des praticiens en libéral en disant « je suis pas contente de la psychiatrie institutionnelle », c'est pas simple. Mais on y est arrivé. Donc c'est en termes de relations, ça a été extrêmement compliqué. Donc il y a eu des gens formidables, mais pas dans le milieu médical, dans le milieu plutôt pas... Enfin, en tout cas, on a rencontré des psychologues qui nous ont vraiment aidés, qui ont fait le boulot qui aurait dû être le boulot des psychiatres, à savoir... de l'éducation thérapeutique, de la guidance parentale, donc tant expliquer à notre fils ce qu'était son trouble, donc l'autisme et la dépression, que aussi expliquer à notre fils, mais également à nous, et trouver des solutions, donc tirer vers le haut au lieu de réduire les symptômes simplement, c'est de dire ben, comment apprendre à vivre avec un trouble permanent.
J'accueille maintenant dans le studio Madame Christelle Duzelet, qui est assistante sociale.
Radio B, les bonnes ondes.
Bonjour Madame.
Bonjour.
Madame Duzelet, en quoi consiste votre travail par rapport aux aidants?
Alors, en tant qu'assistante sociale, donc à la plateforme de répit des aidants, on accompagne les aidants donc, de personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Mon travail, c'est celui de coordonner les actions de la plateforme de répit. De proposer des suivis individuels et puis également de proposer des activités collectives aidant aider ou aidant seul les mercredis après-midi, en tout cas d'accompagner les aidants le plus simplement possible et tout au long des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours
d'aidant.
Voilà.
Le témoignage de Sophie rapporte une situation conflictuelle ou une relation conflictuelle dans un domaine médical bien, bien précis. Lorsque les aidants évoquent avec vous leur rapport avec ce milieu médical en général, que vous rapporte-t-il? Il y a beaucoup de soucis?
Non, en général, alors l'interlocuteur privilégié, c'est souvent le médecin traitant, les aidants ont des bons contacts avec leur médecin traitant et parfois ils vont peut-être rapporter le fait que le médecin a peu de temps, bien sûr, pour les écouter et que leurs difficultés d'aidants peuvent être pas assez entendu pour eux, simplement par manque de temps. Mais après, non, il n'y a pas des difficultés telles qu'on a pu l'entendre dans le témoignage. C'est plutôt bienveillant.
Jean-Jacques, comment vous comprenez le rôle de l'assistante sociale par rapport à votre statut d'aidant ?
Ah, ça a été compliqué au début. Après, ça fait partie de, voilà, du service d'évaluation et de par leur formation et leur expertise de se rendre compte si on est, je pense, toujours capable d'assurer ce rôle aussi.
Vous avez connu des soucis comme avec le milieu médical, comme a pu le décrire Sophie. Gardons bien l'esprit que c'est un cas particulier.
Je me suis totalement reconnu dans les propos de Sophie. J'ai eu également ces soucis relationnels avec les professions médicales, prises en son sens large. Ça s'est beaucoup amélioré. J'ai mis de l'eau dans mon vin également aussi. Il faut savoir qu'on a, en tant qu'aidant aussi, on a un gros rôle de coordinateur. Et c'est vrai que quand vous avez aide à domicile, que vous avez infirmier, que vous avez kiné, que vous avez également ergothérapeute qui peuvent venir pour un déplacement au fauteuil, que vous avez les vendeurs de fauteuils, que vous avez ce rôle de coordinateur, d'essayer d'avoir les bonnes personnes au bon moment, que ça soit également bien adapté à votre emploi du temps à vous aussi. Et il y a eu quelques moments de tension. Par contre, je rejoins Madame, parce que le médecin traitant, c'est la base de tout. Nous, on a une énorme chance, j'ai son 06 en médecin traitant. Je peux lui envoyer un SMS, à n'importe quel moment, il va me répondre. Donc, c'est un gros support.
Le lien privilégié, il est avec le médecin généraliste, oui, si
oui.
Je comprends
oui,
bien.
Oui, c'est le médecin généraliste, à 150%. Oui.
Et avec les spécialistes?
C'est un petit peu plus compliqué, notamment aujourd'hui... On va dire, avec la pathologie de mon épouse et les spécialistes qui suivent cette pathologie, j'ai eu d'énormes difficultés récemment.
D'énormes difficultés?
Oui, ouais, d'énormes difficultés, oui.
Vous entendez souvent ce genre de discours, Madame Duzelet?
Avec les spécialistes, oui, des fois les aidants nous rapportent qu'ils ont du mal à être entendus, à avoir simplement une réponse, ou peut-être avoir le médecin au téléphone, un temps, enfin le temps d'écoute qu'ils souhaiteraient, ils ne l'ont pas forcément, ils ont du mal à joindre ces médecins spécialistes. Donc oui, c'est des difficultés qu'on entend. Et ne serait-ce qu'avoir un rendez-vous dans des délais qui peuvent être raisonnables, ça aussi c'est compliqué.
Est-ce qu'une assistante sociale peut intervenir dans ce domaine?
Alors malheureusement...
Pas par rapport au lien aidant médical dans le domaine technique, mais pour obtenir un rendez-vous, pour insister?
Alors malheureusement, non, on n'a pas plus
de pouvoir
que les aidants eux-mêmes. Nous, la plateforme de répit, on a la chance d'être adossée au centre hospitalier, donc on est aussi en lien avec... par rapport à la pathologie des personnes que l'on suit, les médecins gériatres notamment, et on arrive quand même à signaler une situation qui nous semble sensible et à éventuellement pouvoir avoir l'écoute du médecin.
Jean-Jacques, vous vous appuyez pour obtenir un rendez-vous plus rapidement, par exemple, vous vous appuyez sur votre médecin généraliste, c'est arrivé ?
C'est arrivé, et puis la dernière fois, j'ai eu un échange, on va dire, assez virulent avec le secrétariat, je leur ai dit qu'ils n'attendaient pas l'appel d'un aidant qui appelait au secours. Et on m'a rappelé deux jours après.
Il a fallu en arriver à...
Il a fallu en arriver à ce point-là. Oui.
Madame Duzelet, Jean-Jacques, tout à l'heure, nous a dit que c'était qu'il pensait être un véritable coordinateur, en fait, coordonnateur d'activité. C'est un vrai métier, en fait, qu'il exerce.
Oui, je crois. Un vrai métier aidant, c'est à temps complet, c'est 24 heures sur 24, c'est la personne présente tout le temps et pour tout. Pour les intervenants, effectivement, pour mettre en place les aides. Il faut être présent à tous les rendez-vous médicaux, tout ce qui accompagne la personne aidée. Donc oui, je crois que c'est un vrai métier.
Donc quand les aidants viennent vous rencontrer, ils vous racontent tout ça?
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de temps d'écoute, d'accompagnement, et c'est pour ça aussi que dans le cadre de la plateforme, on peut proposer des entretiens avec notre psychologue, parce que moi, je pense qu'ils ont besoin simplement de pouvoir parler ou déposer ce qui peut être plus lourd ou plus difficile, quoi.
On parle de l'infirmier et de l'aide à domicile qui se déplace dans le logement du couple aidé-aidant. Le psychologue, c'est un aidant de l'aidant?
Ben oui.
On peut le voir comme ça?
Tout à fait, oui. En tout cas... c'est une possibilité pour les dents.
Vous avez utilisé un psychologue, Jean-Jacques?
Non, jamais, non.
Non, vous n'en avez pas éprouvé le besoin?
Non, j'en ai pas éprouvé le besoin. Je peux discuter dans le cadre de mon travail avec des personnes qui sont proches dans le cadre du travail. Voilà, on échange aussi. Si je disais tout à l'heure que les amis, c'était la moitié d'une main qui nous restait, mais dans le cadre du travail, j'ai quand même de beaux échanges. Ouais.
Quand vous sentez, Madame Duzelet, quand vous sentez que la soupape monte et qu'elle est prête à lâcher, vous proposez des solutions de répit?
Alors nous, au niveau de la plateforme, on oriente plutôt sur ce qui peut exister. Les solutions de répit, ça peut être un accueil de jour, par exemple. Ça peut être également un hébergement temporaire en EHPAD. Voilà ce qui peut exister comme solution de répit. Après, peut-être un temps ou un week-end ou dans le cadre, selon a dû parler Madame Grobon, du baluchonnage, donc le fait d'avoir quelqu'un qui vienne à domicile, un professionnel, pour soi-même pouvoir partir en week-end. Il y a aussi des séjours de vacances de répit qui peuvent être proposés. Voilà ce qu'on peut éventuellement vers ce qu'on peut orienter les personnes.
On va approfondir cette notion de répit maintenant.
Radio B, les bonnes ondes.
Nous imaginons sans peine qu'être aidant, situation subie, je le rappelle, entraîne des conséquences physiques et psychiques. Il n'est pas rare d'en arriver à l'épuisement. Comment trouver un moment pour soi? En fait, comment et où trouver des moments de répit?
Radio B, les bonnes ondes.
Madame Grobon, je reviens vers vous. Qu'est-ce que le répit apporte aux aidants?
Ça leur apporte un moment pour eux. Un moment vraiment pour eux, pour une activité, enfin le choix qu'ils feront de leur temps de répit et d'essayer de se recentrer sur eux et de laisser la personne qu'ils accompagnent.
Vous partagez, Madame Duzelet?
Oui, je partage et je pense que le répit, c'est essentiel pour que les dents tiennent le plus longtemps possible.
On a compris que les aidants étaient parfois réticents à certaines solutions. Est-ce qu'ils ont du mal à trouver des moments de répit ou les accepter plus exactement, Madame Duzelet?
Oui, je pense qu'ils ont du mal parce qu'on a expliqué qu'effectivement, aidant, c'est un métier à temps plein et ne pas culpabiliser, prendre du temps pour soi, ça prend plusieurs mois, certainement. Enfin, les personnes que nous, on accompagne... Pour accepter quelques heures d'aide à domicile dans la semaine, ça peut prendre plusieurs mois, déposer un dossier à pas, faire une demande pour un accueil de jour, tout ça, on peut le compter en mois, voire éventuellement en année.
Avant que la démarche soit lancée?
Oui, effective.
Ça peut aller jusqu'à plusieurs années?
Oui.
Madame Grobon, quels sont les différents moments ou les moyens de répit qui sont proposés? Il y a l'aide à domicile, on peut le considérer comme un moment de répit?
Oui.
Il y en a d'autres, l'infirmier, bon là c'est plus technique. On évoquait tout à l'heure le moyen de passer un week-end au calme pour se ressourcer. Il y en a d'autres? Les relations entre aidants, elles existent?
Certaines institutions mettent en commun les aidants pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger sur leur situation. Parfois, ils disent que ça vient de leurs amis, mais de même situation, en fait, de vie courante, commune, en fait.
Comment on peut faire, Madame Duzelet, pour persuader ou convaincre un aidant de prendre un moment pour lui? Parce que sinon, il va aller jusqu'à l'épuisement, si j'ai bien compris.
Oui, alors...
Comment vous faites?
Déjà, on essaye de les convaincre de venir nous voir. Donc ça, c'est un premier pas.
Il faut commencer par là.
Oui, il faut déjà commencer par le premier contact. Et puis après, ne donner aucune contrainte, aucune condition à venir nous voir, par exemple, à notre plateforme de répit. C'est quand les gens souhaitent. Les activités du mercredi après-midi de répit, entrer dans aider, c'est quand ils veulent, comme ils veulent. Voilà, on ne rajoute pas à leur emploi du temps et à leur stress et à leur anxiété des contraintes supplémentaires. Je pense qu'il faut vraiment être là. Quand ils ont besoin.
Madame Grobon, si je dis que l'aidant a du mal à parler de lui, mais parle beaucoup plus facilement de la personne qui l'aide, vous partagez?
Oui, totalement. Ça vient leur cœur de quotidien, en fait. Donc, ils pensent à ça quand ils se lèvent le matin. Et oui, ils parlent plus de la personne aidée que d'eux-mêmes, finalement. Ils s'oublient en tant que personne et individu.
Il vous est difficile de leur faire parler d'eux-mêmes?
Oui, on revient toujours au sujet central, la personne aidée.
La personne aidée, on en a, quand on veut parler de l'aidant ou l'aidant, lui, on revient toujours à la personne aidée. Et il cherche à expliquer quoi, qu'il ne peut pas s'en aller, qu'il ne peut pas laisser.
Oui, c'est ça, c'est son quotidien. Et puis non, il veut pas lâcher, il a du mal à passer à autre chose et à penser à autre chose et s'octroyer justement des temps pour lui, avec de la culpabilité finalement de s'octroyer du temps pour lui.
Ce sentiment de culpabilité, Madame Duzelet, vous le rencontrez souvent ?
Oui. Oui, chez nos aidants, oui, bien sûr. Un sentiment de devoir aussi, d'engagement.
D'engagement.
Voilà, de culpabilité. Prendre du temps pour soi, c'est pas très utile. Alors, même si on explique que s'ils prennent du temps pour eux, eh bien, ça tiendra plus longtemps à la maison. En fait, il faut... C'est compliqué quand même.
C'est compliqué pour vous à gérer.
Oui, alors nous, on accompagne l'aidant dans sa temporalité, hein, c'est-à-dire que s'il n'est pas prêt aujourd'hui à entendre les choses, ben, c'est pas grave, on passe à autre chose, quelque chose de plus agréable, de léger pour lui, et puis on en reparlera quand il en aura envie.
Il y a eu des situations d'épuisement ?
Oui, des situations un peu où ce qui arrive parfois, c'est que les nuits sont trop difficiles, que l'aidant ne peut plus dormir. Et là, on arrive très très vite à un épuisement très important. Et malheureusement, des solutions en urgence, eh ben, il n'y en a pas. Hein. Alors, ça peut aboutir à une hospitalisation parfois. Mais oui, des situations d'épuisement, on en rencontre très régulièrement.
Que devient la personne aidée dans ce cas-là ?
En général, hein, c'est effectivement soit par le biais du médecin traitant, éventuellement une hospitalisation ou une solution temporaire d'accueil en EHPAD. Voilà, où la famille va venir prendre le relais quand elle le peut, quand les enfants sont pas trop loin et qu'ils en ont la possibilité. Mais c'est pour ça qu'on essaye de préparer les aidants à envisager l'avenir et des solutions, parce qu'un jour on sait que cet épuisement risque d'arriver.
On a beaucoup entendu parler ces dernières années de burn-out professionnel au travail. Le burn-out de l'aidant, c'est bien une réalité, Madame Grogon.
Totalement, totalement.
Ça arrive souvent ?
Alors, en ce moment-là, actuellement, on a beaucoup de demandes urgentes. Comme on disait, nous, on n'est pas des services d'urgence, mais seulement, voilà, l'aidant dit c'est urgent, c'est tout de suite qu'il faut intervenir, et parce qu'ils sont en situation d'épuisement déjà.
Quel a été le phénomène induit par la pandémie ? Vous avez mesuré quelque chose ? Vous avez vu des changements ?
Justement, que les demandes arrivent en situation d'épuisement.
Liées à la pandémie ?
En tout cas, il y a eu plus de demandes d'épuisement de l'aidant, de situations dites d'urgence, on va dire, depuis la pandémie.
Et sous l'aspect social, Madame Duzelet, vous rencontrez aussi ce phénomène qui est lié à la pandémie ?
Oui, pendant le confinement notamment, les aidants ont tenu. Ils n'ont pas eu toutes les aides extérieures habituelles. Et effectivement, il y a eu moins de sollicitations, moins de sorties, moins de moments conviviaux. Et on a l'impression qu'en sortie de pandémie, ils lâchent puisqu'ils ont tenu et voilà, on n'y arrive plus. Quoi.
La soupape a lâché, ouais. Ils sont en plein épuisement.
Oui, oui.
Et vous faites quoi ? J'ai l'impression que le médecin traitant, le généraliste, il a un grand rôle dans ces histoires des dents aidées, surtout pour les dents, Madame Grobon.
Il va permettre peut-être d'orienter un petit peu les dents pour trouver des solutions justement de répit.
Il peut vous appeler le médecin généraliste ?
Non, nous, pas nous.
Pas vous non plus, Madame Duzelet ?
Si, nous on est l'interlocuteur des médecins généralistes si ils ont besoin d'informations. Et de notre côté aussi, on peut... leur orienter ou leur parler d'une situation qui nous paraît, avec l'accord de l'aidant, qui nous paraît difficile.
C'est votre fonction d'assistante sociale qui vous permet ça, en fait ?
Dans le cadre de la plateforme de répit, on est les interlocuteurs des médecins et de la filière gériatrique, voilà, des acteurs de la filière.
Radio B, les bonnes ondes.
Nous arrivons au terme de ce magazine spécial. Avant de donner une dernière fois la parole à nos invités, écoutons Sophie sur sa situation actuelle.
Alors aujourd'hui, mon fils est rétabli, donc il va bien, Très bien. Donc rétabli au sens psychiatrique, c'est-à-dire il n'a plus de dépression, il n'a plus de troubles anxieux, ou en tout cas il les gère, et il a un bon niveau d'autonomie sur lequel on travaille, et il est heureux, voilà, tout simplement heureux. Donc où on en est aujourd'hui, on va bien. Notre famille, on a appris énormément de ce qui s'est passé, donc on continue d'accompagner notre fils, on sera toujours moins ses aidants, mais plutôt ses accompagnants, en tout cas je l'espère, et on vit du mieux qu'on peut en regardant les choses positives de la vie.
Christian et Jean-Jacques sont revenus dans le studio, je reviens vers eux. Christian, si vous aviez des conseils à donner à des aidants ou de futurs aidants, quels seraient-ils ?
Eh bien, peut-être que le premier conseil serait de se protéger, de se ménager, afin de tenir dans le temps.
Vous le dites, mais est-ce que vous le faites ?
Oui.
Comment vous le faites ?
J'essaye. Eh bien, j'ai 2 jours par semaine de vrai répit, puisque mon épouse est en accueil de jour. Donc ça me permet de respirer, de prendre mon temps, d'évacuer un peu le quotidien du matin et du soir.
2 jours par semaine, vous en profitez pour faire quoi ?
Les courses, et puis le jardinage, l'extérieur de la maison, l'entretien de la maison.
Ça vous fait 2 jours par semaine pour des moments rien qu'à vous ?
Exactement, c'est tout à fait ça.
C'est un bon moyen de se ressourcer ?
Ah, complètement, oui. Et j'ai commencé la première année avec 1 jour par semaine, et là nous en sommes à 2 jours depuis la reprise du mois d'avril. Et 2 jours, je pense que c'est bien. C'est le mardi et le vendredi, donc c'est assez bien équilibré dans la semaine. Et je m'en porte bien le matin quand c'est le jour, eh bien je sens un petit peu le poids sur l'estomac qui se libère.
Et vous, Jean-Jacques, quel conseil vous donneriez à des personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions pour se demander si elles ne sont pas aidantes, en fait ?
Elles sont... Les questions, je pense que les réponses vont venir très vite, qu'elles se rendent compte qu'elles sont aidantes. C'est vrai que pouvoir s'accorder du temps, c'est bien. Personnellement, moi, j'ai pas beaucoup de temps à m'accorder. Je m'accordais beaucoup plus qu'avant, mais maintenant, avec l'évolution de la maladie, c'est de plus en plus compliqué. Par contre, la relation aidant-aidé, tant qu'il y a de l'amour, quand il y a de la tendresse entre les personnes, entre un parent avec son enfant, les frères, les sœurs, les conjoints, les conjointes, tant que ça sera sauvegardé, on pourra avancer.
Les aidants, ils se rencontrent entre eux, Christian ?
Non, je ne connais personne.
Et vous, Jean-Jacques ?
Dans ma situation.
Oui, moi je connais des personnes, j'ai essayé avec des associations de participer à des groupes de parole, mais c'est pas simple non plus.
Qu'est-ce qu'on se dit entre aidants ?
Courage.
Bon courage ?
Oui.
Bon courage aussi à vous, Christian ?
Oui, merci.
Eh bien, je remercie toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, Sarah, Sophie, Christian, Jean-Jacques, Angélique et Christelle. N'oubliez pas l'événement du 3 juillet à la Plaine Tonique à Montrevel. Vous trouverez toutes les informations sur le site de Radio B. À bientôt sur le 90 FM, Les Bonnes Ondes.
Ha ha ha!